Je voudrais d'abord vous dire que c'est possible de découvrir Marie. C'est possible de l'accueillir de manière intime. Ce n'est pas réservé à quelques personnes. Mais c'est vrai qu'il y a des chrétiens qui ont plus de facilité au départ que d'autres. Marie était donnée par Jésus à tous. Et c'est donc un don qu'on peut désirer et demander. Moi, je ne dirais pas que j'ai pleinement accueilli Marie dans ma vie, mais plus je la connais et plus je suis désireux de suivre sa vie. Alors, j'aime bien dire que Marie est plus mon modèle que saint Paul. Parce que c'est le Concile qui l'enseigne. Elle est le modèle de toute vie chrétienne. Et donc, il faut déjà arriver à assimiler ça. Le vrai modèle de ce que c'est qu'un disciple du Christ, c'est la Vierge. On pourrait dire que la Vierge, c'est la vie chrétienne réduite à l'essentiel. Il n'y a pas de charisme particulier, on ne voit pas d'œuvre extraordinaire dans la vie de Marie. On peut dire que c'est la vie la plus ordinaire qui nous révèle que la vraie sainteté, c'est pas de faire des choses extraordinaires, comme vous le savez bien, mais c'est de vivre, comme disait Jean-Paul II, d'une façon extraordinaire les choses ordinaires. Donc en réalité, Marie, tout en étant le modèle le plus élevé, il n'y a pas de créature plus parfaite que Marie, est en même temps en réalité le modèle le plus accessible. Elle nous livre un secret que l'on peut vivre dans toutes les situations de notre vie. Alors vous n'allez pas découvrir ce secret comme ça d'un coup. C'est des choses que l'on découvre peu à peu. Mais je voudrais ouvrir un petit peu des portes pour éveiller le désir de mieux la connaître. On va essayer de se limiter à trois passages de l'Évangile. Le premier, évidemment, c'est l'Annonciation dans Saint-Luc. C'est l'Évangile, à vrai dire, qui est le plus lu dans l'année. Chaque fois qu'il y a une fête de Marie, pratiquement, on relit l'Annonciation. Juste après l'Annonciation, vous avez la Visitation. Donc, dans ces deux mystères, vous avez à la fois cette dimension de l'accueil, hein, de l'accueil de l'Esprit-Saint, et puis en même temps, vous avez cette dimension d'une action concrète. Là, on est dans le prolongement de la mission, de l'évangélisation. On peut dire que la première évangélisation chrétienne, c'est Marie qui l'a opérée à travers la Visitation. Elle a donné le Christ à Élisabeth, plutôt elle l'a donné d'abord à Saint Jean-Baptiste, et elle a en même temps sanctifié Élisabeth. Et ça, elle l'a fait simplement par une simple salutation. C'est quand même fort d'avoir sanctifié le plus grand des saints, enfin, on pense juste après Saint Joseph, Saint Jean-Baptiste, en l'espace d'une salutation, et d'avoir sanctifié aussi sa cousine. Ça laisse songeur. On se dit, mais comment elle a pu avoir une telle fécondité, la Vierge? Où est son secret? Oui, Marie est la reine des apôtres, elle est la reine des évangélisateurs, parce qu'en réalité, à travers une vie tout ordinaire, elle a communiqué, donné le Christ au monde bien plus que tous les apôtres. Alors en fait, ce que l'on voudrait, c'est être à la fois Marie et Marthe. Vous êtes tous dans le monde, tous actifs, et on voudrait arriver à être à la fois actifs, mais à l'intérieur d'un esprit marial, qui est, et vous le comprenez bien, d'abord le secret de Marie, d'abord c'est sa capacité d'accueillir. c'est sa réceptivité. Donc on demande à Marie une vie dans laquelle on puisse continuellement accueillir l'Esprit Saint pour que ce soit l'Esprit Saint qui fasse ses œuvres en nous, par nous, à travers nous. C'est tout ce que vous désirez, hein. J'en suis sûr, puis c'est ce qui a été reçu à la louange. Et puis la lecture qu'on a eue sur l'amour, comment aimer l'autre en Dieu, avec Dieu. Vous voyez Marie dans la visitation, ce qu'elle fait, vous pouvez le faire même avec des personnes que vous n'aimez pas humainement. Ça se passe à une profondeur qui dépasse les sympathies ou antipathies. On peut laisser passer Dieu, on peut donner Dieu même à des personnes pour lesquelles on n'a pas du tout d'affinité. Ça ne dépend pas de nos sentiments. Ça se joue dans une profondeur plus grande que l'affectivité. En fait, on a deux choses à faire, accueillir Dieu et le communiquer aux autres. Alors, si nous regardons Marie dans ce qui nous est présenté d'abord par l'Évangile, donc nous sommes remis devant son fiat. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Ici, nous avons un peu le cœur de la vie, ce qui est premier dans la vie de Marie. Ce qui n'a cessé de s'approfondir en elle, c'est son fiat. Il faudrait progressivement entrer dans le fiat de Marie pour pouvoir, comme elle, laisser l'Esprit Saint descendre sur nous et laisser Jésus naître en nous pour ensuite le communiquer aux autres. Et alors, comment comprendre ce fiat de Marie ? Comment je peux prononcer mon fiat intérieurement dans ma vie quotidienne ? Je pose une question là. En quoi ce fiat de Marie, est-il toujours possible dans ma vie ? En quoi il consiste essentiellement ? Je suis la servante du Seigneur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire je vis ma vie dans un esprit de soumission, d'obéissance à la volonté de Dieu. Donc Marie est celle qui nous apprend à vivre l'amour d'abord comme obéissance à Dieu. Jean-Paul II disait, le nouveau nom de l'amour, c'est l'obéissance. Maintenant, je prends un exemple. Vous connaissez quelqu'un qui est en difficulté, que vous voulez aider. Vous pouvez l'aider parce que vous avez un projet pour lui. Vous aimeriez qu'il puisse, je ne sais pas moi. Je parlais avec des psychologues lundi soir, et en fait, on a partagé ensemble, et chacune a fini par dire, moi, si je ne prie pas, si je n'invoque pas l'Esprit Saint, j'arrive à rien. Psychologue, hein. Et on s'est tous dit, au fond, c'est vrai que, en dehors de la grâce de Dieu, ce que l'on fait est très très limité humainement. Ça ne porte pas vraiment un fruit profond. Comment on peut, dans un travail humain, accueillir continuellement l'Esprit Saint ? Par quelle attitude ? Marie, en nous disant « Je suis la servante du Seigneur », nous dit que l'attitude essentielle du chrétien, c'est un abandon à la volonté divine. Et je redisais, on peut vouloir faire du bien aux autres en suivant un projet pour les autres. Mais on peut faire la même chose en ne désirant que l'accomplissement de la volonté de Dieu, en ne désirant qu'obéir au désir de Dieu. Je veux dire, les mêmes choses peuvent être vécues soit avec notre idée propre et notre volonté propre, soit dans un esprit d'obéissance. Extérieurement, il n'y a rien qui change, juste l'esprit. Moi, je vous parle, je peux vous parler parce que j'ai envie de parler, parce que j'aime bien parler, soit je le fais profondément dans mon cœur pour, dans un acquiescement à la volonté divine, en discernant et en désirant faire la volonté de Dieu. Il y a des gens qui font des choses parce qu'elles aiment faire certaines choses, elles se laissent mener par le goût qu'elles ont aux choses. On peut aimer évangéliser, on peut aimer parler de Dieu, on peut aimer prier, on peut aimer faire plein de choses. La question de fond, c'est dans quel esprit je le fais. Parce qu'en réalité, fondamentalement, Dieu donne l'Esprit Saint à ceux qui lui obéissent. Donc si vous voulez recevoir l'Esprit Saint dans votre vie, la première chose, c'est de rentrer dans ce « Je suis la servante du Seigneur ». Maintenant, comment rentrer dans ce « Je suis la servante du Seigneur » ? Juste après, Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole. Donc déjà, ça veut dire, la première chose, c'est d'obéir à la parole. Dans notre vie, quand on reçoit des paroles et qu'on se laisse guider par une parole, on voit bien que c'est plus notre volonté propre, mais c'est la parole qu'on suit, c'est la parole de Dieu. Ça fait comprendre aussi une chose, c'est que, vous voyez, les commandements, ça fait partie de la parole de Dieu, les commandements. Pourquoi c'est insensé de ne pas suivre les commandements? Ce n'est pas une question de perfectionnisme moral. Je ne suis pas les commandements de Dieu pour être quelqu'un de bien. Je suis les commandements de Dieu pour laisser l'Esprit Saint passer. Soit je le fais, voyez, l'obéissance au commandement peut être vécue soit dans une forme de moralisme crispé, soit dans un esprit de sagesse, c'est-à-dire la conscience que si je ne colle pas au commandement, je décolle de l'Esprit Saint. Or souvent, voyez, pour faire du bien aux autres, on est tenté de décorner un peu les commandements. Et si vous y réfléchissez bien, il y a bien des tentations ou des moments où on biaise un peu par rapport au droit, par rapport à ce qui est vraiment juste de faire, par rapport à ce qui est honnête, parce qu'au nom d'une intention très pieuse, très spirituel. Mais en fait, on se fait piéger. Moi, personnellement, dans ma vie de prêtre, plus j'avance, plus je cherche à me protéger par l'obéissance. La justice, c'est aussi d'obéir à l'autorité. Actuellement, je suis dans un foyer, il y a un père, qui est le père Alain Bandelier, qui est responsable du foyer. Moi, je fais partie du foyer. Des fois, il y a des personnes qui disent, me demandent conseil. Je leur dis tout de suite, demandez au père Alain, c'est pas moi qui ai autorité, l'obéissance, ça passe par lui. Alors, il faut être très au clair sur l'obéissance. Dans la vie professionnelle, il y a une autorité légitime. On passe par l'obéissance. On se couvre par l'obéissance, tout en obéissant qu'à Dieu. On n'obéit pas pour plaire aux hommes, on n'obéit pas parce qu'on a peur d'une éventuelle sanction, on obéit pour laisser passer l'Esprit Saint. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Quand j'étais jeune vicaire, quand je voulais faire des choses que je savais que mon curé n'aimait pas, je ne lui en parlais pas, ou je lui disais les choses plus ou moins floues, en disant, voilà, j'aimerais bien ceci, ça, comme ça, hop, disons tout. Oui ?
Il y a quand même la question de si l'autorité se trompe.
Alors, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, dit l'Écriture. L'autorité, je lui obéis dans la mesure où elle s'exerce de manière légitime et qu'évidemment, elle ne dit rien qui soit contraire au commandement. Mais j'apprends ça aussi aux petits-enfants du catéchisme. Enfin, du moins quand je faisais le catéchisme. Vous obéissez à vos parents pour obéir à Dieu. Si jamais ils vous demandaient des choses contraires au commandement de Dieu, vous obéissez à Dieu, non pas à vos parents. J'obéis à l'autorité légitime pour obéir à Dieu. Légitime, c'est quand elle ne s'oppose pas au commandement de Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Je sers le Seigneur en me collant à ses exigences. D'abord. Qu'il me soit fait selon sa parole. D'abord. Ensuite, dans l'Évangile, nous voyons Marie, notamment au moment de la naissance de Jésus, avec les bergers, qui garde les choses dans son cœur. Elle gardait tout cela dans son cœur. On sent Marie à l'écoute des événements. On sent Marie très, très docile à ce qui arrive. J'aime beaucoup la parole de Peggy. L'événement, c'est moi, dit Dieu. Vous savez, là, les apôtres, la tempête, là. Puis ils ne reconnaissent pas Jésus, ils ont peur. Et Jésus qui leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Dans la vie, il y a des événements très difficiles à vivre, hein, des épreuves, tout ça. Et est-ce que nous avons assez de foi? Est-ce que nous sommes assez dans un esprit d'obéissance à Dieu, dans la foi en sa providence, pour nous soumettre aux événements? Pas simplement à sa parole écrite, mais à sa parole non écrite, qui sont les événements de notre vie. Il n'y a rien qui nous arrive que Dieu ne permette dans sa sagesse pour nous conduire au salut. Ça, c'était une affirmation extrêmement forte du pontificat de Saint Jean-Paul II, qui a été de répéter à la suite du catéchisme, à la suite de Saint Paul, Dieu fait tout contribuer au bien de ceux qu'il aime. Il n'y a rien que Dieu, dans sa miséricorde, ne permette, si ce n'est pour un bien plus grand. Et sa miséricorde sera toujours capable de transformer le mal en bien. Ça, il faut le croire aveuglément. Aveuglément. Même si ce qui nous arrive semble totalement absurde, nous n'aurons jamais trop confiance en la providence divine. Dans la miséricorde de Dieu qui s'exprime dans cette providence. La providence, c'est la miséricorde en œuvre. C'est la miséricorde qui ne cesse de se servir de tout pour nous conduire à Dieu. Ici, il y a un gros déficit de foi. Comme dirait Benoît XVI, on a mis Dieu hors jeu. C'est pas possible que Dieu permette ça, ça n'a aucun sens, c'est absurde. On a mis Dieu hors jeu. Si Dieu est hors jeu de ma vie, qu'est-ce qui me reste alors face aux événements? De me dire, ben oui, le monde est vraiment terrible, les hommes sont tous plus ou moins pervers, et puis moi je me retrouve dans tout ça, et alors ça ouvre quelle espérance de mettre Dieu hors jeu? Moi, un Dieu, comme dirait Benoît XVI, dont le pouvoir s'arrête là où commence le pouvoir du mal, si le pouvoir de l'amour divin s'arrête là où commence le pouvoir du mal, où est notre espérance? Si nous ne sommes pas face à un Dieu qui est capable de tout assumer pour tout transformer, où est notre espérance? Et donc, si les événements de notre vie ont toujours un sens divin, ben, il faut pouvoir les accueillir dans la foi. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté, selon tes chemins à toi. Pas selon mes projets à moi, mais selon tes chemins. Ça vous choque un peu ce que je vous dis là? Mais j'essaie de...
quoi.
Non, c'est pas facile. C'est pas facile, mais regardez Marie au pied de la croix. Comment elle a tenu? Elle a tenu dans une confiance aveugle, précisément. Tout semblait démentir les promesses de l'ange. Ton fils régnera sur le trône de David. Tout semblait perdu, tout semblait gâché. Elle reste dans une confiance aveugle et elle tient bon. Il y a des moments dans la vie où il ne faut plus réfléchir. Il faut croire seulement. Il y a des longs tunnels. La confiance aveugle. Il ne faut pas penser que Marie, dans sa vie, ait eu plein d'inspiration, d'illumination divine. Il nous est dit explicitement dans Saint-Luc qu'elle ne comprenait pas. Vous savez, au moment où Jésus est resté à Jérusalem, Marie gardait fidèlement toutes ces choses dans son cœur, mais il est dit juste avant, ils ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Elle ne comprend pas l'attitude de son fils, le comportement de son fils. Mais ce qui fait la beauté de la foi de Marie, c'est pas que ça a été une foi illuminée par plein d'inspiration, mais que ça a été une foi aveugle. Bien heureux ceux qui croient sans voir, sans comprendre. Les croix qu'on comprend, ce n'est pas des vraies croix. Ça n'a pas beaucoup de valeur. Les vraies croix, c'est celles où on peut, comme Jésus, pouvoir dire « Mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça, c'est les vraies croix. C'est quand on ne voit plus d'issue. Être docile aux événements. Accueillir d'abord les événements de la main de Dieu. Le Concile dit « Les fidèles se sanctifieront dans toutes les circonstances de leur vie à condition de recevoir toutes choses de la main du Père Céleste. » Il ne faut pas rater la première marche. Je reçois les choses de la main de Dieu, dans la foi. Et ensuite, ayant posé un acte de confiance aveugle, je reçois la lumière de l'Esprit Saint. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas une lumière, mais la lumière, elle brille dans l'obscurité. D'une intelligence qui accepte de ne pas voir, de ne pas comprendre. À ce moment-là, il y a des lumières très profondes qui sont données. Des petits signaux intérieurs. On a des pressentiments de quelque chose. Si quelqu'un, Jésus dit, si quelqu'un marche à ma suite, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mais Jésus dit avant, pour marcher à ma suite, il faut renoncer à soi-même et porter la croix. Donc, je renonce à moi-même, je renonce à ma volonté propre, à mes projets propres. Je porte la croix, ça veut dire j'accepte la réalité, tout simplement. J'accepte ce qui m'arrive. Et ensuite, je marche dans la lumière. Parce que je suis le Christ. Mais ce n'est pas « je suis le Christ parce que je comprends ». Non, c'est « je suis le Christ et après je comprends ». Suis-moi et ensuite tu entreras dans la lumière. Et nous, souvent, on se décourage parce qu'on ne voit pas le sens et dit « mais qu'est-ce que fait Dieu ?» tout ça. Et donc, on n'accepte pas de passer par l'épreuve de la foi. C'est comme ça qu'on se prive des lumières intérieures. Là, je suis en train de penser qu'un bon exemple, vous voyez, de quelqu'un qui a été docile aux événements, c'est Benoît XVI. Quel événement? Son état physique. Vous allez me dire, oui, mais enfin, quand même, il aurait pu durer un peu plus. Par rapport à Jean-Paul II, il était plutôt en forme, tout ça. Non, son état physique, il l'a reçu comme un signe Il a interrogé sa conscience, comme il l'a dit. Il a discerné. Mais il a accepté de voir la réalité. Il se sentait de plus en plus fatigué. Et en conscience, en acceptant l'événement, il a eu cet éclairage. Sa conscience a été éclairée. Il a pris finalement la décision. Comme étant la volonté de Dieu. Oh, on voudrait, nous, qu'il y ait un ange qui apparaisse, qui nous dise, oui, tu dois faire ceci, ou une lumière charismatique. Non, des fois, on accepte, on se soumet, et puis on est conduit sur un chemin, et puis finalement, on prend la bonne décision. Oui, c'est pas, je ne dis pas que c'est facile. Hein. Je dis simplement, garder Marie comme modèle, d'une femme entièrement docile aux paroles de Dieu contenues dans l'Écriture, c'est sûr, mais aussi aux événements. Le pape Saint Jean XXIII, il avait une sorte de proverbe que cite le pape François, comme quoi finalement dans les événements, voyez, il disait qu'il fallait tout voir, essayer de s'ouvrir le plus possible au réel, avoir une vision d'ensemble, hein, des choses. Vous imaginez, un pape, c'est le gouvernement de toute l'Église. Essayer de tout voir dans la lumière de Dieu, enfin d'ouvrir le plus possible les yeux. Et il rajoutait, tout voir, mais changer peu de choses. Changer peu de choses. Parce qu'en réalité, on est dépassé par les événements. Et dans notre vie, on est tenté, par rapport à cette situation, de foncer dans le tas en disant ça c'est pas juste, c'est pas normal, je vais réagir. On s'agite, on croit encore qu'on va pouvoir mener des événements, et si on veut, on se heurte à des murs, à des. Hein? Ça vous est tous arrivé, ça. On s'énerve, on s'excite, on se bat, et puis toi, et on bute. Tout voir, changer peu de choses. Discerner ce qui dépend vraiment de nous. Marie, on ne la voit pas faire des monts et merveilles. Elle est présente à certains moments. À Cana, elle dit juste, ils n'ont pas de vin. Ah, ça, c'est la sagesse. Ça, c'est la sagesse. Discerner ce qui dépend de nous, ce que Dieu attend vraiment de nous dans des événements, sachant que ce n'est pas nous qui gouvernons le monde. Ce n'est pas nous qui gouvernons l'histoire. Ce n'est pas nous le maître. C'est Dieu. Et que nous, on doit juste coopérer à l'action de Dieu. C'est lui qui mène les choses. On n'est pas sur terre pour prendre le gouvernail de notre vie. On est sur terre pour coopérer à l'action de Dieu qui nous conduit. La dernière fois qu'on voit Marie dans l'Évangile, c'est à la Pentecôte. Marie, elle a été appelée dans l'Écriture l'épouse de l'Esprit-Saint, dans la tradition. tellement elle était docile à l'Esprit Saint dans son obéissance, dans son esprit d'obéissance, elle recevait continuellement l'Esprit Saint et elle se laissait mener par lui à travers toutes les circonstances de la vie. Franchement, quand on se laisse mener par l'Esprit Saint, c'est tellement plus simple la vie. On arrête de buter sur les choses, on les prend juste comme il faut, et en faisant juste le petit peu qu'on peut faire, et en lâchant tout ce qu'on doit lâcher. Là, c'est ça la liberté. On a eu un texte sur la liberté. Moi, j'ai l'image de quelqu'un qui surfe, vous voyez, on surfe sur les vagues du mal. On prend la vague dans le bon sens. On passe au-dessus. On surfe, faut bien prendre les vagues. Pas se les prendre en pleine figure. Non, surfer dessus. Légèreté. Jean 23, et on sentait quelqu'un qui avait une sorte de confiance comme ça. Il a lancé un concile, ça le dépassait complètement. D'ailleurs, il disait qu'il y a une histoire qui disait, il voyait un garçon qui lui disait qu'il hésitait entre être policier et pape. Et il lui disait, écoute, choisis plutôt policier parce que tu vois, pape, n'importe qui peut l'être puisque moi je le suis. Non, mais il ne se prenait pas au sérieux. Il fait les choses avec une sorte de légèreté comme ça, alors qu'il est entouré par des cardinaux stressés qui imaginaient le pire et qui... La vie chrétienne est peut-être légère. Il y a une légèreté qui fait que, vraiment, on reste tout petit devant Dieu et qu'on sait que c'est lui qui mène la barque. Alors, je termine. Marie, on la voit à la Pentecôte. On la voit à la Pentecôte en train de... En fait, elle entraîne les apôtres dans la prière. Mais c'est pour recevoir l'Esprit Saint. Demandez et vous recevrez. Et dans la version de Saint-Luc, Jésus termine ce passage, lui dit « Demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira » en disant « Vous, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants quand ils vous en demandent. Combien plus le Père donnera-t-il » Il ne dit pas de bonnes choses, il dit l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent. Parce que quand on a l'Esprit Saint, on a tout le reste. Et donc la prière chrétienne, c'est une prière qui gémit, qui attend l'Esprit Saint, qui demande l'Esprit Saint. Il faut demander Dieu à Dieu, il ne faut pas demander moi. On demande des choses, mais on ne sait pas toujours si c'est les bonnes. On présente les situations, on confie les situations, mais on gémit après l'Esprit Saint. Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, le reste sera donné par surcroît. » Si on ne cherche pas d'abord le royaume de Dieu dans la prière, qu'est-ce qu'on cherche? L'exaucement de notre volonté propre? Alors c'est Dieu au service de mes projets à moi. Ce n'est pas ça les règles du jeu, c'est moi au service des projets divins. Pour ça, j'ai besoin que d'une seule chose, de l'Esprit Saint. Donc quand on prie, il faut prier avec Marie. Dans les dispositions de Marie, qui sont toujours ces dispositions d'abandon, d'obéissance, de fiat. Alors, je vous ai apporté une petite prière que vous allez faire passer, qui est une prière de la Vierge de... Vierge de Marthe Robin. Vous avez tous votre petite prière de Marthe Robin. On va la dire ensemble. Ô bienheureuse Vierge, ma divine Mère, donnez-moi vos yeux si purs pour contempler Jésus. Donnez-moi votre cœur pour l'aimer. Gravez profondément en mon âme l'image si douloureuse et pourtant si assurante de sa passion et de sa glorieuse résurrection, afin qu'il y ait toujours Jésus présent à mon esprit et à mon cœur, je vive jusqu'à la mort d'une vie toute sainte, toute pure, toute humble, toute cachée en Dieu, avec Jésus et vous, ma bonne mère. Il y a beaucoup de choses dans cette prière. Mais... je vous invite à penser aussi la Vierge dit qu'il me soit fait selon ta parole, en définitive, la parole au sens plénier, c'est le Christ lui-même, le Verbe fait chair. Donc Marie a été la première à écouter Jésus. Et ici, nous lui demandons ses yeux si purs pour contempler Jésus, pour l'aimer et pour le suivre, donc en le regardant. Et en le regardant dans sa passion et sa résurrection, afin de vivre profondément dans notre cœur d'abord de cette communion à la vie de Jésus dans l'Esprit Saint. Et ça s'appelle la vie intérieure, qui est une vie d'union intime, de communion avec le Christ. C'est une vie cachée, dont dépend tout le reste. Et en regardant Marie, on a le modèle de cette vie cachée, dont dépend tout le reste. Une vie profondément de communion à la vie du Christ. Alors, dans le rosaire, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Marie ses yeux pour contempler Jésus, pour l'aimer, pour le regarder lui dans les épreuves de la vie, dans tous les événements de la vie, nous laisser conduire par lui dans une confiance aveugle. Donc maintenant, grâce à Jean-Paul II, nous avons vraiment le résumé de tout l'évangile, avec tous les mystères de la vie du Christ, 20 mystères, vous voyez, qui englobent tous les mystères de notre propre vie. Jésus a tout assumé de notre vie, qu'on puisse tout vivre les yeux fixés sur lui, pensant à lui, en lui faisant une confiance totale, en le regardant lui, au lieu de nous regarder nous-mêmes, de rester désespérément accrochés à nos projets. Regarde Jésus et on le suit en renonçant à nous-mêmes, en portant notre croix à sa suite, et c'est comme ça qu'on marche dans la lumière. Donc Marie, elle nous éduque, je suis la servante du Seigneur, qu'il soit fait selon ta parole, qu'il me soit fait selon ta parole ultime, qui est ton Verbe fait chair, que je veux regarder toute ma vie et suivre toute ma vie aveuglément. J'espère que vous avez fait l'expérience de votre vie, que dans des moments difficiles, le simple fait de penser à Jésus, quand on pense vraiment à lui, hop, on retrouve une respiration et une lumière intérieure. Enfin, on retrouve l'espérance. Donc le chapelet, on le prend pour plonger dans le cœur immaculé de Marie, qu'elle nous donne ses yeux pour contempler Jésus, sa foi très pure, son obéissance à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on avance. Quand soi-même, on touche les limites de notre propre foi, de notre propre obéissance, de notre propre abandon, on se réfugie dans le cœur immaculé de Marie. Ce n'est pas compliqué. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite, en disant le chapelet.